Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Conakry, 15h à Tananarive. Bienvenue à notre journal. Mouvement de contestation au Soudan, grève générale dans le pays. Ce, à partir de ce mardi, à l'appel des leaders de la contestation pour accroître la pression sur l'armée qui refuse de transférer le pouvoir aux civils plus de 6 semaines après avoir écarté le président Omar al-Béchir sous la pression de la rue. Le leader déchu est remplacé depuis par un conseil militaire de transition. La grève est censée durer 48 heures. En Égypte voisine, Human Rights Watch, organisation de défense des droits humains basée à New York, dénonce dans un rapport publié ce mardi ce qu'elle qualifie de graves abus et crimes de guerre commis par les forces de sécurité égyptiennes et la branche locale du groupe État islamique qui s'affrontent dans le nord de la péninsule du Sinaï. Le document de 134 pages intitulé « Si vous craignez pour vos vies, quittez le Sinaï », abus des forces de sécurité égyptiennes et des affiliés à l'État islamique dans le nord Sinaï, a été réalisé sur la base de plus de 50 témoignages de résidents, d'anciens responsables locaux et internationaux. Pas de réaction des autorités égyptiennes à la publication du rapport jusqu'à présent. Afrique de l'Ouest maintenant, en Guinée, le ministre de la Justice, Cheikh Sako, a présenté sa démission au président Alpha Condé au moment où le pays connaît un vif débat sur l'opportunité d'une nouvelle constitution. Maître Sako est contre toute modification de la charte fondamentale. Le président Alpha Condé a nommé à sa place le ministre par intérim, Mohamed Lamine Fofana, son conseiller en charge des relations avec les institutions républicaines. Plus de détails avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
La nouvelle s'est vite répandue comme une traînée de poudre. D'abord parce qu'elle concerne l'un des proches collaborateurs du président Alpha Condé, mais aussi Maître Cheikh Sako annonce sa démission dans un contexte de crise qui oppose les magistrats aux chefs de file de la majorité présidentielle. Enfin, cette nouvelle est beaucoup commentée à cause des raisons du départ du ministre de la Justice. Dans le courrier qu'il a adressé lundi au président Condé, Maître Cheikh Sako dit n'avoir pas été associé à la rédaction de la nouvelle constitution compte tenu de ma position personnelle contre toute modification ou changement de la constitution en vigueur. Vous comprendrez que je ne puisse plus continuer à exercer la fonction de ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'adresse-t-il au chef de l'État guinéen. Cheikh Sako affirme avoir tiré les conséquences du silence du président Condé depuis le 4 avril dernier, jour de leur rencontre. Une rencontre au cours de laquelle le désormais ex-ministre de la Justice rappelle avoir demandé au président guinéen de le remplacer. Le Front National pour la Défense de la Constitution qualifie la démission de Cheikh Sako de salutaire et lance un appel aux autres membres du gouvernement de se désolidariser du projet de troisième mandat. C'est la troisième démission depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir. Cette démission intervient après celle de Khalifa Gassama Diaby, ancien ministre de l'Unité nationale, et de Sidya Touré, ancien haut représentant du chef de l'État. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Afrique de l'Ouest toujours, en Gambie, 7 militaires ont été condamnés par une cour martiale lundi à 9 ans de prison et un autre à 3 ans pour faits de trahison et mutinerie contre le président Adama Barrow, quelques mois après le départ forcé de son prédécesseur à la tête de l'État, Yahya Jammeh. Les précisions d'Irénée Herman Ungo.
Le président de la cour martiale, le colonel Salifou Bojong, a lu les noms des 7 condamnés à 9 ans de prison et de leurs camarades condamnés à 3 ans, tous étant radiés avec indignité des forces armées. Les condamnés et leurs proches ont réagi au verdict par des cris et des pleurs selon des témoins. Selon la cour, les condamnés avaient comploté l'arrestation de ministres et de responsables de l'armée. Ils ont aussi créé un groupe WhatsApp pour planifier des attaques contre la force de la CDAO dans la région d'origine de Yahya Jammeh. En revanche, les généraux Ansoumana Tamba, ancien commandant de la garde présidentielle, et Oumpa Mendy, ex-responsable de la protection rapprochée de Yahya Jammeh, ont été acquittés lors de notre procès en cour martiale. Cette décision doit encore être confirmée par le chef d'état-major en vertu de la réglementation militaire. La sécurité du pays est toujours assurée par les forces de la CDAO, dont le mandat a été prolongé à plusieurs reprises.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Élections à Madagascar, les Malgaches ont boudé leurs urnes lundi lors des législatives avec un taux de participation estimé à 31% seulement. C'est ce qu'annonce aujourd'hui la Commission électorale nationale indépendante. Ces élections législatives étaient organisées 5 mois après le deuxième tour de la présidentielle remportée par Ange Rajoel devant son éternel rival Marc Ravalomanan. La CENI doit annoncer les résultats provisoires des législatives le 15 juin. Élection au Malawi maintenant, le chef de l'État Peter Mutharika, proclamé vainqueur de l'élection présidentielle contestée du 21 mai, sera investi dès ce mardi pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête du pays sur décision de la Haute Cour malawite. Malgré les accusations de fraude formulées par l'opposition, la commission électorale a annoncé lundi soir la victoire de M. Mutharika avec 38,57% des suffrages devant son principal rival Lazarus Chakwera. 35,41% des voix. L'opposition n'a pas fait savoir jusqu'à présent si elle comptait contester ses résultats en justice. Mais au lendemain des élections, la société civile locale et les observateurs internationaux s'étaient félicités presque sans réserve de la bonne tenue du scrutin. Actualité américaine maintenant, le président Donald Trump a quitté ce mardi le Japon après une visite d'État de 4 jours au cours de laquelle il a été le premier leader étranger à rencontrer le nouvel empereur Naruhito. Pendant son séjour, le chef de l'exécutif américain a assuré que les récents essais de missiles balistiques à courte portée effectués par la Corée du Nord ne sont pas une préoccupation personnelle pour lui-même. Même si ces tests constituent une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Donald Trump a fait ses commentaires à Tokyo aux côtés du Premier ministre japonais qui a lui une vision différente sur les essais nord-coréens. Le point avec John Lyndon.
Il ne fait guère de doute que la Corée du Nord a testé 3 missiles balistiques à courte portée plus tôt ce mois. Un satellite commercial a même capturé une image d'une traînée de fumée provenant de l'un des missiles. Mais si vous écoutez les commentaires de Donald Trump en visite d'État au Japon, vous ne saurez pas du tout que les essais ont eu lieu.
Nous avons parcouru un long chemin. Il n'y a pas eu d'essai de fusée. Il n'y a pas eu d'essai nucléaire. Il y a eu très peu d'activité de ce point de vue.
Trump a également rejeté la position de son propre personnel qui soutient que ces lancements de missiles violent les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Je vois les choses différemment. Je le vois comme un homme. Peut-être qu'il veut attirer l'attention, peut-être pas. Qui sait? Cela n'a pas d'importance. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas eu d'essai nucléaire. Il n'y a pas eu de missiles balistiques. Il n'y a pas eu de missiles à longue portée et je pense qu'un jour, nous aurons un accord.
L'approche plus douce de Trump pourrait être une tentative de sauvetage des pourparlers nucléaires avec la Corée du Nord. Mais cette position place des alliés des États-Unis, tels que le premier ministre japonais Shinzo Abe, dans une position délicate.
Le lancement de missiles balistiques à courte portée par la Corée du Nord le 9 mai viole les résolutions de l'ONU et c'est extrêmement regrettable, comme je l'ai répété à maintes reprises. En même temps, je voudrais exprimer à nouveau mon respect pour la nouvelle approche adoptée entre le président Trump et le président Kim.
En Corée du Sud, le pays le plus menacé par les armes nord-coréennes, l'approche de Trump est bien accueillie par le gouvernement dont la priorité principale est l'amélioration des relations intercoréennes.
Bong Yong-jit, Institut d'études sur la Corée du Nord de l'Université de Yonsei.
Aussi longtemps que l'administration Trump espère avoir des négociations sérieuses avec Pyongyang sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne, pourquoi ne pas faire preuve de souplesse dans le traitement des missiles à courte portée et des essais de tir?
En ignorant les tests de missiles de moindre envergure, certains analystes craignent que Trump ne donne l'assentiment à Kim pour tester de plus grosses armes. Mais pour d'autres, cela vaut mieux qu'un retour à 2017, lorsque Kim et Trump ont échangé des menaces d'annihilation nucléaire.
Dans de telles circonstances, ne rien faire de stupide est une action de politique étrangère très importante. Ce n'est difficile pour aucun gouvernement. Ne rien faire, ne pas sortir du rang, ce n'est pas aussi facile.
are not as easy as we may think.
Trump a de nouveau déclaré lundi qu'il n'était pas pressé de conclure un accord nucléaire avec la Corée du Nord. Le sentiment n'est pas réciproque. Kim, le mois dernier, a annoncé qu'il laisserait à Trump jusqu'à la fin de l'année pour modifier son approche.